Zoom Écologie, tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h30 sur Fréquence Paris Pluriel.
Bonsoir, vous êtes sur FPP 106.3, il est 20h30. Ce soir, l'équipe du premier jeudi du mois de Zoom Écologie vous propose un reportage sur la traction animale en agriculture. On a participé pendant 2 jours à une formation en traction animale aux côtés de Gauthier. Bonsoir Gauthier.
Bonsoir.
Tu es salarié de l'ADR dans le Gard et tu as animé cette formation. Est-ce que tu peux nous la présenter rapidement?
D'accord. Alors, avant de présenter la formation, pour préciser le contexte, j'aurais déjà présenté rapidement l'association. Donc l'ADARG est une association d'accompagnement à l'installation agricole. Ça fait une quinzaine d'années qu'on accompagne différents porteurs de projets à l'installation agricole dans le Gard, notamment des gens qui sont sur des parcours non aidés ou à petite échelle ou d'agriculture alternative. Voilà. Donc on accompagne des personnes et on leur propose aussi tout un programme de formation parce que pour la plupart ce sont des gens qui ne sont pas issus du milieu agricole. On entendra plusieurs témoignages durant le reportage. Donc on propose des formations qui sont toutes axées vers des techniques alternatives, écologiques, vers la recherche d'autonomie aussi des personnes, autonomie décisionnelle du paysan. Une des plus vieilles formations que l'on fait, on l'a fait depuis 2006, donc c'est une formation en traction animale, en agriculture, axé autour d'un public, beaucoup de maraîchers, de débardeurs, des gens qui sont pour la plupart autodidactes.
D'accord, et là sur la formation en traction animale, est-ce que tu peux nous présenter un peu les participants qu'il y avait?
Alors sur cette formation, là l'émission était enregistrée sur 2 jours d'une formation qui en faisait 4. Donc on fonctionne par 2 fois 2 jours où on réunit environ une dizaine ou une quinzaine de participants avec 2 formateurs, Jean que vous entendrez qui est plus qui est un prestataire de traction en traction animale, donc qui fait des formations, qui intervient dans les lycées, qui est aussi éleveur, et Bénédicte qui est éleveuse aussi de chevaux dans le Gard, plus sur la partie dressage. Donc on réunit toutes ces personnes pendant 2 jours, donc c'est des formations qui sont lourdes à organiser puisqu'il faut trouver un lieu. On essaye de beaucoup axer sur la participation des stagiaires et qu'ils soient le plus proactifs. Donc c'est-à-dire aussi qu'ils viennent avec leurs animaux pour ceux qui en ont, qu'ils travaillent avec leurs animaux, ils amènent du matériel qu'ils ont acheté pour la plupart d'occasion, qu'ils ont récupéré, et on travaille autour de ça, donc en essayant de se rapprocher au plus possible des conditions réelles. Donc là, c'est les deux derniers jours de la session de ce printemps. On est sur un jardin maraîcher chez Jérôme que vous entendrez et on travaille sur ces 2 journées, on a travaillé avec des ânes, avec des mules et Foulane, le cheval de Jean qui est un cheval très expérimenté. Donc on a une diversité de publics et on a une diversité d'animaux et chacun apprend avec ses animaux, les animaux des autres, de son expérience et de celle des autres.
On a testé différents outils aussi
Voilà, alors vu qu'on est sur des gens qui font de la petite agriculture, on est dans les Cévennes, donc il y a beaucoup de matériel qui est récupéré, les gens n'ont pas forcément aussi les moyens de s'acheter le matériel moderne ou du matériel neuf. Donc par contre, on trouve encore beaucoup de matériel dans les taillis, au fond des remises et dans des vies d'écuries aussi. Et donc ça fait
d'ailleurs, il y a un bourrelier qui nous a accompagnés pendant la formation.
Voilà, il y a aussi un bourrelier qui nous a accompagnés pendant la formation. Donc ça fait totalement partie de la formation qui est de vouloir se rapprocher des conditions réelles et de travailler en conditions réelles. Ça veut dire que les gens amènent leur matériel. On regarde des fois entre 2 journées ou 2 sessions, un tel répare le matériel de l'autre ou il s'échange des colliers qui sont à la bonne taille ou pas à la bonne taille. On a la chance d'avoir autour de nous aussi un bourrelier, quelqu'un qui est retraité, qui vient bénévolement et qui retape ou qui fait des pièces sur mesure à la demande des stagiaires.
D'accord, merci beaucoup. Donc on se retrouve tout de suite à Mialet dans les Cévennes pour la présentation de ces 2 journées. Et ensuite, on écoutera les témoignages de participants à la formation et du formateur.
On va devant les patates.
La dernière orangée au fond.
À
Saint-Paul-Lacoste, là, chez Philippe, on avait fait beaucoup plus de dressage. Enfin, là, on en a fait un petit peu, mais c'était plus axé là-dessus. Donc, avec la mule de Flavien, le mérins de Philippe, et là, on avait un peu travaillé les animaux avec des outils. On avait fait plus ça. Et donc, ce qu'on avait dit vendredi dernier, c'était de reprendre ici, chez Jérôme, avec du travail du sol. Donc c'est voilà, donc Jean qui est venu du coup avec Folan pour faire des démonstrations de plusieurs outils, parce que là on est sur un jardin maraîcher qui était aussi plus facilement travaillable que chez Philippe. On avait plus de surface avec des sols qui étaient déjà ou un petit peu travaillés ou à labourer. Donc il y a voilà, et puis voilà, déjà pour les gens qui sont en maraîchage, c'était aussi important d'axer sur démonstration d'outils. Donc ce qu'on a fait beaucoup fait, on a beaucoup fait travailler Folan et c'était chouette quoi. Tout en faisant un petit peu du... Voilà, chacun, ceux qui ont amené les animaux, on essaie de travailler un maximum. Et pour ceux qui n'ont pas amené d'animaux, mais qui sont quand même venus, qui pratiquent, voilà, c'était quand même l'idée d'acquérir de l'expérience ou d'apprentissage, de l'apprentissage des autres.
Allez, Poulan, marchez.
Donc Jérôme, tu nous as accueillis sur ton champ cet après-midi pour la formation de traction animale.
Mm-hmm. Tout à fait.
C'était ton champ ?
C'est un champ qu'on nous prête, on nous met à disposition, c'est un commoda, c'est un bail civil, c'est un truc très 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 simple en fait. La propriétaire nous met dehors quand elle veut et nous on s'en va quand on veut sans contrepartie. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'échange, quoi que ce soit, quoi. C'est une mise à disposition gratuite.
D'accord. Et donc tu es en train de t'installer ?
Ouais, on est en installation progressive avec Delphine, ma compagne, depuis 3 ans, c'est la 3e année. On est suivi par une structure associative qui s'appelle la DEARG, qui fait de l'installation progressive dans le milieu agricole sur tout type de projet. Quoi. Là, dernièrement, il y a des projets qui sont en train de se monter autour de reptiles. Il y a des trucs beaucoup plus conventionnels comme du maraîchage, ce que nous, on fait. Et le principe, en fait, c'est de prendre son temps pour s'installer, d'arriver à aboutir à avoir un métier qui nous convienne et qui nous permette de vivre décemment.
Donc là, vous avez commencé à faire du maraîchage ?
Voilà, voilà. Tous les légumes d'été, légumes d'automne, légumes de printemps.
Donc c'est une création d'activité, tu n'es pas issu du milieu agricole ?
Absolument pas. Ni diplômé, ni fils de paysan, ni propriétaire des terres. Donc du coup, on est hors-circuit au niveau des structures conventionnelles. Et du coup, on se rabat sur des structures plus associatives, à échelle beaucoup plus paysanne, on va dire. On pourrait dire humaine.
Vous avez choisi de travailler sur des petites surfaces et vous avez aussi choisi de travailler avec des animaux, notamment en traction animale. Est-ce que tu peux expliquer ce choix ?
Du pétrole, il y en a de moins en moins. Et puis... On se rend compte de plus en plus que agronomiquement, tout ce qui est machines et grosses machines, c'est pas ce qu'il y a de mieux. On a fait des recherches dans le sens agronomique justement qui prouvent que tout ce qui est mécanisation, c'est plein de vibrations, c'est plein de niveau mécanique hein, qui tassent les sols, qui polluent l'atmosphère, qui abîment les haies et tout. Et au final, en fait, on revient et on va être obligé d'y revenir. Donc, il vaut mieux s'y préparer. On revient sur la traction animale, on revient sur des choses qui sont beaucoup plus proches du vivant encore. Pas comment dire, plus simplement que ça, proche du vivant.
Et est-ce que c'est facile de se former à la traction animale ? Est-ce qu'on trouve de choisir de s'équiper, de faire le choix d'un animal plutôt qu'un tracteur ? Est-ce que c'est pas aussi un défi quelque part ?
Ah, c'est complètement un défi, quoi. Mais s'installer paysan, c'est un défi. Travailler avec du vivant en se disant est-ce que cette année il va assez pleuvoir, est-ce qu'il va faire assez chaud, est-ce qu'il va pas faire trop humide, est-ce que c'est un choix aussi, c'est des choix de vie quoi. Delphine a démissionné d'un CDI à 1600 euros par mois pour devenir paysanne quoi. Et pas de basculer en traction animale, c'est comme basculer d'un boulot on va dire relativement conventionnel stable. À un boulot de paysan où on ne sait pas si en fin de mois, en fin d'année, on va avoir un salaire. Quoi. Ça, c'est des choix de vie après.
Alors concrètement, sur jardin, sur le maraîchage, quel choix tu as fait pour le travail du sol et comment tu te formes?
Via des formations proposées par la DEARG, et du coup, en traction animale, avec des gens qui baignent dans le milieu de la traction animale, notamment Jean Clopès et Bénédicte Soulier qui nous forment actuellement là, pendant sur ces 4 jours. Et du coup, tous les ans, on se voit régulièrement pour faire un petit peu le point, voir si on a avancé et revoir certaines bases qui sont indispensables à revoir. Ça, c'est la façon dont on se forme. Et après, au niveau outillage, c'est un peu de façon empirique, quoi. Quand l'animal commence à bosser, à bien réagir à un certain outil, au lieu d'avoir un outil bricolé, on va essayer de basculer sur un outil, d'acheter un outil plus efficace. Pareil pour tout ce qui est collier, pareil pour tout ce qui est attelage, pareil pour tout ce qui est cinglerie et tout, quoi. C'est empirique.
Et donc, quel type d'animaux il y a sur la ferme actuellement ?
Il y a 2 ânes, bientôt des poules. Mais les poules pour attraction, ça va être une culture, quoi.
Alors, est-ce que tu peux nous parler de ces ânes, comment elles travaillent, comment tu les mets au travail, l'apprentissage
que Qu'est-ce que tu leur fais faire ?
On essaie de leur faire faire un petit peu des choses de base. Il y a des trucs qui paraissent tout con, mais qui sont indispensables. C'est arriver à les brosser, déjà arriver à les attraper. Au début, c'est pas facile. Ça paraît con, mais c'est pas facile. Je me défie quiconque de rentrer dans un parc avec un âne qu'il ne connaît pas et de l'attraper, déjà. Après, les brosser. Après, petit à petit, arriver à les faire suivre, nous suivre, à les faire marcher devant nous. Et petit à petit, en fait, une relation de confiance qui se crée entre l'animal et le meneur. Et une fois que cette relation de confiance est établie, après on peut imaginer commencer à faire des tas de choses beaucoup plus intéressantes, comme faire porter du poids, lui faire tirer des outils. Une fois que l'animal est en confiance, comme il a l'instinct grégaire du troupeau, en fait, le dominant du troupeau, c'est celui qui défend dans le troupeau. Donc si nous on prend un petit peu cette place par rapport à l'animal, si nous on prend la place du chef du troupeau, quelque part on le défend, donc l'animal il a confiance en nous, donc on peut lui faire faire des tas de choses, quoi, parce qu'il a confiance. Et ça, c'est un travail du quotidien, ça ne se fait pas en lisant des bouquins, en faisant des formations. Il faut vraiment être au quotidien avec l'animal pour arriver à instaurer ça sans se retrouver comme un de ses congénères, en fait, mais quand même avoir cette position de dominant, de défenseur, qui permet le lien de confiance et qui permet justement après d'avancer dans le travail, de pouvoir sans souci accrocher des outils derrière. Sans que l'animal y parte, quoi. Si l'animal il a confiance, on peut faire un petit peu ce qu'on veut, on peut monter dessus, on peut le chahuter et tout. Il a confiance en nous, l'animal. Après, c'est.
Alors, et pourquoi le choix des ânes plutôt que d'autres animaux ?
Nous, c'est pour le format, parce qu'on est en maraîchage, on est sur des petites superficies, donc on est sur des petites longueurs de rang. On n'est pas sur de la céréale où on a plusieurs hectares. On n'est pas sur du débardage en forêt où on aurait plusieurs centaines de mètres à tirer des troncs. On est sur des toutes petites longueurs de 50-80 mètres, voire des fois 30 mètres. Et du coup, avec des animaux plus gros, il faudrait espacer un peu plus les rangs, donc on perd de la place au niveau des passages. Et puis pour faire les demi-tours en bout de rang, ça devient assez compliqué aussi dès que les animaux sont trop gros. Puis les outils sont très gros aussi, puis ça bouffe beaucoup.
Est-ce qu'il y a des outils motorisés sur l'exploitation ?
Ouais. Il y a un motoculteur. Il y en a 3, mais il y en a 2 qui ne marchent pas.
Et l'idée, c'est de pouvoir s'en passer, vraiment ?
Ah oui, complètement, ouais. Ah, oui. L'idée, c'est même de pouvoir, après, de temps en temps, c'est carrément de pouvoir livrer les légumes carrément attelés, quoi. Avec un petit chariot derrière, hein, de pouvoir aller faire la tournée des petits hameaux et du marché attelé, quoi.
Ça, c'est quoi comme outil ?
Ah, c'est un cultivateur. Il y a des dingues avec des fils ressorts.
Hein ? C'est un vibroculteur aussi, non ?
Oui, ça fait vibro. Hein. Donc ça, c'est un vrai outil pour le maraîchage. En plus, les pattes d'oie, les côtes de melon, les petits versoirs, on le trouve dans le... Bah, tu connais ça, toi ? Dans le matériel de micro-tracteur, ça se trouve, les dingues.
Oui, puisque moi, je pensais même fabriquer un vibro avec les queues de cochon, en allant acheter les dingues queues de cochon. S'accroche justement sur des cadres vignerons derrière. Mmh. Ça vaut 11 euros, je crois, pièce.
Bonjour Jean.
Bonjour.
Bonjour.
Donc tu étais invité là en tant que formateur pendant 4 jours, en tant que formateur en traction animale, avec un public en majorité de gens qui ont des projets agricoles, qui souhaitent travailler avec des chevaux ou des ânes, enfin des animaux de traction. Est-ce que tu peux nous parler de l'intérêt pour ces gens-là d'avoir des animaux sur, au niveau du travail agricole?
Oui, bien sûr, il y a plusieurs intérêts. Il y a un intérêt d'abord technique. Le cheval, c'est un outil de précision, il peut passer sur des petites parcelles, dans des endroits où le tracteur passe difficilement. Il peut se serrer des cultures, par exemple les vignes, il peut passer dessous, il peut travailler dans les serres. Donc le cheval ou la mule peut passer vraiment partout. Et donc c'est un outil de précision par rapport à une machine mécanique. En plus, ici on est dans les Cévennes, il y a beaucoup de petites parcelles, il y a des cultures en terrasse, des terrasses en réhabilitation. Donc parfois c'est impossible d'accéder avec un engin mécanisé. Et donc avec des animaux de trait de petite taille, on peut effectivement cultiver ces parcelles qui sont restées à l'abandon et les réhabiliter. Donc ça, c'est un intérêt technique. Il y a ensuite un intérêt agronomique. Le cheval, par rapport au tracteur, ne tasse pas les sols. C'est pas simplement le poids du tracteur qui tasse les sols, c'est surtout le poids amplifié par les vibrations du moteur et transmise par les vibrations des pneumatiques. C'est-à-dire qu'un tracteur à chenille, par exemple, va tasser beaucoup moins le sol parce qu'il n'y aura pas les vibrations des pneumatiques. Ce qui est important aussi, c'est que nous, ce qu'on voit, c'est le tassement superficiel, mais ce qui est le plus néfaste pour l'organisation du sol, c'est le tassement des couches profondes. Et le tassement des couches, il commence par les couches profondes en remontant. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas le dessus qui se tasse. Ça, c'est pas très gênant, c'est surtout le dessous. Et après, ça devient difficile de revenir à un sol vivant. Donc quand le sol effectivement est tassé, le sol meurt et il n'est plus vivant, donc il n'y a plus de biodiversité dans le sol, il n'y a plus d'équilibre. Donc ça, c'est un problème agronomique.
Et le cheval est une réponse à ce problème?
Oui, le cheval ne tasse pas les sols parce qu'il n'y a pas de... D'abord parce qu'il est moins lourd et puis surtout parce que les pattes ne se posent pas toujours au même endroit. Et puis il n'y a pas de vibration, il n'y a pas de pneumatique. Donc on n'a pas cet effet de tassement par vibration. C'est un peu, pour donner une image, comme quand on prend un sac de grains ou un bocal de lentilles et qu'on le tape par terre pour tasser le fond et en mettre un peu plus.
Et sur le travail du sol lui-même, est-ce qu'il y a des différences?
Est-ce que le cheval est capable de faire le même travail qu'un tracteur, ou est-ce qu'il peut faire tout type de travaux avec une culture appelée?
Bien sûr, après on peut faire tout type de travail du sol avec des animaux. Tout dépend la puissance nécessaire. On peut mettre plusieurs chevaux si on a un outil qui est très lourd, ou si on veut labourer très profondément, défoncer le sol, on peut mettre plusieurs chevaux, comme ça se fait encore en Amérique chez les Amish. On peut mettre 6, 8, 10 chevaux. Mais bon, ici sur des petites parcelles, c'est pas envisageable. Mais effectivement, on peut tout faire avec des animaux. Il n'y a pas de choses qu'on ne peut pas faire. C'est simplement, si on a des très grandes parcelles, il faut plusieurs chevaux, il faut plus de temps. Là-dessus, le tracteur, c'est souvent plus rapide. Voilà. Mais ce n'est pas le même travail. On a un travail qui est beaucoup moins précis et qui est beaucoup moins propre.
Est-ce qu'il y a encore une place pour les chevaux dans l'agriculture aujourd'hui?
Bien sûr. Après, comme je viens de le dire, je pense que le cheval a surtout sa place dans des petites cultures, sur des petites parcelles, notamment tout ce qui est maraîchage, viticulture. Là, le cheval a sa place. Et de plus en plus, surtout quand on est en recherche de qualité. Après, sur des grandes cultures céréalières, pour le moment, je pense que c'est pas envisageable raisonnablement. Voilà. À ce moment-là, le tracteur est complémentaire. Mais sur des petites parcelles où on recherche de la qualité dans le sol, parce que la qualité du sol va faire la qualité du produit à l'arrivée, le cheval a tout à fait sa place. Et le cheval permet un investissement moindre aussi.
Un investissement financier?
Oui. D'accord. Ça, c'est une autre des avantages de la traction animale. C'est que sur une installation, sur une installation en agriculture, au départ, le financement du matériel est bien moindre avec le cheval qu'avec un tracteur.
Tu peux nous dire quelles sont les difficultés principales pour quelqu'un qui se lancerait ou qui voudrait se mettre en traction animale
Alors, comme tu viens de le dire, il y a deux choses. Il y a d'abord l'animal et ensuite il y a le matériel. Le matériel, il y a tout ce qui est harnais et après il y a tout ce qui est outil de travail du sol. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut être compliqué pour quelqu'un qui ne connaît pas les réseaux, qui n'a pas l'habitude de trouver tout ça. On a en France de très bons dresseurs de chevaux. On peut trouver des chevaux déjà dressés pour la traction animale en fonction du travail qu'on a à faire. Bon, bien sûr, à condition d'y mettre le prix. L'erreur à ne pas faire et qu'on voit souvent, malheureusement, c'est les gens achètent un animal jeune en se disant « je vais le payer moins cher, je vais le dresser moi-même ». Et c'est vrai que c'est la bonne manière pour se dégoûter ou pour arriver à un accident. Il vaut mieux attendre un peu, mettre un peu plus d'argent et avoir un cheval qui soit déjà dressé. Mais c'est vrai qu'actuellement, il y a peut-être plus de demandes que d'offres. Voilà.
Il y a un retour de la traction animale au niveau de la demande, il y a un intérêt croissant?
Oui, il y a un intérêt croissant, voilà. Après, il faut que ça reste raisonnable et il faut que ce soit des gens qui proposent des choses qui tiennent la route. Voilà. Ce n'est pas parce qu'il y a une niche qui se crée qu'il faut s'engouffrer dedans juste pour faire de l'argent.
Est-ce que tu peux...
C'est pareil au niveau du matériel de travail du sol, des outils et des harnais. Après, on peut aussi trouver du matériel d'occasion, aussi bien en harnais qu'en travail du sol, à condition qu'il soit adapté au cheval et à ce que l'on veut faire, qu'il soit en sécurité.
Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu apportes ou les méthodes pédagogiques, enfin, de ce que tu souhaites apporter aux stagiaires en formation, autant ici sur des journées comme ça où on a public de porteurs de projets agricoles que sur tes autres interventions dans les lycées agricoles
Ces gens-là ont des projets, donc il faut essayer de les aider à y voir plus clair dans leurs projets. C'est-à-dire, il y en a certains qui vont dire « Ok, bon, c'est ce que je veux faire, ça correspond. » Et puis il y en a qui vont dire « Non, ben, finalement, vu comme ça, c'est pas pour moi, c'est pas mon truc, il vaut mieux que je change d'idée. Voilà. » L'idée première, c'est de les aider à y voir plus clair dans leurs projets et de les accompagner. Donc après, comme on le disait, les aider à choisir l'animal, quel type d'animal, à quel prix, quelle race, quelle taille, en fonction du travail. Les aider à choisir les harnais en fonction de l'animal, et les outils aussi en fonction de l'activité, de la culture qu'ils ont choisi. Voilà. Ça, c'est essayer de leur donner des perspectives, de les aider à choisir. Voilà. En gros, y voir plus clair, les aider à avancer dans leur projet. L'outil là, avant de parler de l'outil lui-même, donc col de cygne, par rapport à cette charrue là, là il y a deux mancherons, là il n'y en a qu'un. Alors pareil, ça c'est culturel, c'est-à-dire que le Gard, la partie orientale de l'Hérault, on a deux mancherons. Quand vous commencez d'aller vers Béziers, Narbonne, Perpignan, tous les outils c'est qu'un mancheron. C'est la même chose, c'est juste une manière différente de s'en servir. Après, sur l'outil lui-même, ça s'appelle un arrère dental. Alors l'arrère, c'est l'ancêtre de la charrue, c'était la charrue des premières charrues à la préhistoire, hein. C'était un bout de bois. Après, on a inventé les charrues à versoir, beaucoup plus tard, au Moyen-Âge. Les arrères, par contre, sont toujours utilisés, c'est les charrues qui sont utilisées souvent... en Afrique, en Asie. Donc ça, c'est une version moderne de l'arrère qui a été adaptée pour la vigne. Alors l'arrère, donc vous avez des ailes ici, mais ce ne sont pas des versoirs. Ça fend la terre, ça l'écarte.
C'est pour aérer.
Voilà, ça déstructure. C'est parfait quand on a un sol comme là avec du chien d'âme pour éclater. Quand on a un sol qui est dur, voilà, le sol il est souple, mais quand on a un sol qui est dur, ça permet de pénétrer, d'éclater. On peut passer dans les deux sens et après ça permet de labourer, de faire autre chose. Il y a des régions comme à Perpignan, il y a très peu de pluviométrie, donc il n'y a pas besoin de retourner la terre. Il y a des cailloux, il ne pleut pas, il n'y a pas beaucoup d'herbe, donc ils passent ça deux fois par an. Ça, voilà. Donc là c'est un pseudo-labour. C'est un pseudo-labour, c'est un travail qui est plus superficiel que ça. Il ne retourne rien. Voilà. Ça permet de déstructurer.
d'éclater en surface. Donc ça peut préparer un labour ou ça peut suffire, hein, après passer les griffes. Ou...
Un peu de graisse à du vidange dans une sauce, tu veux.
Le petit cheval dans le mauvais temps, qu'il avait donc du courage. C'était un petit cheval blanc, tous derrière, c'était un petit cheval blanc, tous derrière et lui devant. Il n'y avait jamais de beau temps dans ce pauvre paysage. Il n'y avait jamais de printemps, ni derrière, il n'y avait jamais de printemps, ni derrière, ni devant. Mais toujours il était content, menant les gars du village, à travers la pluie noire des champs, tous derrière, à travers la pluie noire des champs, tous derrière et lui devant. Sa voiture allait poursuivant sa belle petite queue sauvage. C'est alors qu'il était content, tous derrière, c'est alors qu'il était content, tous derrière et lui devant. Mais un jour dans le mauvais temps, un jour qu'il était si sage, il est mort par un éclair blanc, tous derrière, il est mort par un éclair blanc, tous derrière et lui devant. Il est mort sans voir le beau temps, qu'il avait donc du courage. Il est mort sans voir le printemps, ni derrière, il est mort sans voir le beau temps, ni derrière, ni devant.
Bon, bonjour Jean-Michel.
Salut.
Alors,
tu me présentes, ça,
ouais, tu as participé à la formation à cette journée-là autour de la traction animale. Tu peux nous expliquer, enfin nous raconter voilà, ce que tu es venu faire aujourd'hui.
Un peu comme d'habitude, j'allais dire, puisque ça fait déjà 3 ans qu'on se rencontre au moins sur ces doubles journées de formation. Et qui ont au moins le mérite de ne pas être réservé ni à une élite, ni à des quelconques marginaux, je sais pas quoi. C'est les gens d'aujourd'hui avec. Certains l'ont passé dans le travail agricole avec des chevaux, d'autres qui démarrent, ben c'est possible de faire des choses ensemble, notamment se former et transmettre un peu le savoir-faire dont on nous a dérobé.
Donc toi, tu pratiques la traction animale?
Voilà, j'y suis dedans depuis quelques années et voilà, ça va de mieux en mieux, donc continuons.
Donc qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu peux me présenter un peu ton lieu?
Ah, ça va être un peu long. Bon, on est en Cévennes, on est en moyenne montagne, on est sur du maraîchage, sur des plantes aromatiques, et je commence le travail dans les forêts, d'abord tirer du bois pour nos besoins, et puis petit à petit trouver des chantiers de débardage adaptés à nos régions, que c'est pas des débardages professionnels, des débardeurs de ce nom, enfin, en métier. Okay.
Avec quel type d'animaux travailles-tu ?
Donc deux chevaux qui font partie de la ferme. On les fait travailler pour nos besoins, mais on se déplace avec, ils servent à tous les usages qu'on peut avoir avec des chevaux. Ils ne font pas une destination particulière. Donc là, ils ne sont pas encore aptes à tirer des charrettes et tout ça, mais ils font du chariot, et donc on fait le travail du sol, on fait le tirage. Il y a des parties où moi je fais encore le foin soit à la main, à moteur, ou à la main. Bon, ben, le foin, après, il est ramassé, il est ratissé, et c'est les chevaux qui le remontent tirés dans des bâches pour l'instant. J'aurai un chariot à foin, on fera au chariot.
Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as appris, comment tu as commencé à pratiquer
Est-ce que tu t'es installé directement avec des animaux ou...
Non. Non, c'est un parcours ou un parcours de vie ou un parcours accidenté, je sais pas. J'étais loin d'être pro chevaux. Des ânes, pourquoi pas, et bon, les circonstances de voisinage, de copinage ont fait que j'avais du terrain pour accueillir des bêtes et que j'ai pas une vocation particulière d'éleveur. On est plutôt lié au travail du sol, de la terre et voilà. Et donc, en fait, j'ai commencé par trouver un outil pas loin de chez moi. Je l'ai sorti de terre, il était un peu enfoui. On m'a proposé un jeune cheval. Avec lui, j'ai fait un peu mes classes de jeune meneur. Donc, il a fallu que je m'en sépare, vu un peu tous les échecs qu'on avait accumulés. Et là-dessus, j'ai eu la mère de ce jeune cheval qui elle avait déjà travaillé, une cheval Mérens. Une origine ariégeoise et un cheval rustique, polyvalent, voilà, avec ses avantages et ses inconvénients.
Et qu'est-ce qui t'intéresse?
Ce qui m'intéressait, c'est d'être un peu plus en cohérence avec les raisons profondes pour lesquelles on est dans ces régions-là, en Cévennes, et à travailler la terre comme on la travaille, quoi. Et qu'on a de plus en plus de capacités à plusieurs à pouvoir essayer au moins de se rendre un peu plus indépendant du pétrole et de tous ces trucs-là, quoi. Donc les chevaux, les ânes au moins, et les chevaux par la suite viennent tout naturellement dans l'histoire.
Est-ce que tu peux nous parler du coup de l'apprentissage, comment voilà, la vie un petit peu, est-ce qu'il y a plusieurs gens qui pratiquent, comment vous apprenez, vous retrouvez
La première difficulté, c'est d'abord de trouver des gens qui acceptent d'en parler. Le tour d'horizon des formations auxquelles j'aurais pu avoir accès ou que j'aurais pu trouver les moyens de me la payer, ça m'intéressait pas non plus parce que c'est pas une formation technique que je recherche et que je recherchais même. Parce que je me semblais pas, pour l'avoir vécu sur d'autres sujets agricoles, que la pure formation technique, ça ne nous rend pas apte à vivre ce qu'on a à vivre dans une agriculture de moyenne montagne, dans un contexte assez difficile pour des gros projets, qui paraissent plus faciles pour des petits, mais du coup on n'est pas non plus dans une performance très satisfaisante. Donc c'est tout un équilibre à trouver entre faire à l'économie, mais être quand même assez efficace. Et avoir que de la technique... Un cheval, ça marche comme ci, ça fait comme ça, vous donnez le temps à manger, on rentre ça dans les écuries, on met le cheval tant d'heures par jour, etc. On savait que c'était pas une approche qui nous convenait déjà pour nous et qu'elle serait peut-être pas très... Elle nous rendrait pas opérationnelle. Alors qu'il y avait des savoir-faire encore 50 ans avant, ou même 30 ans avant, dans les mêmes lieux où on vit, il y avait encore des mules qui travaillaient associées aux tracteurs, associées... au débardage et tout ça. Les gens qui pratiquaient ne sont plus là ou ont quelques complexes à transmettre ce qu'ils avaient pratiqué. Donc il fallait trouver encore autre chose. Et petit à petit, par le réseau on peut dire de la DEARG, mais c'est plus large que ça. Quoi. C'est par le réseau de gens qui sont au pays, qui ont fait des choix de vie. Ou qui se sont adaptés aux circonstances actuelles, quoi, de l'agriculture de proximité ou de l'agriculture vraiment localisée, quoi. Et il y avait un effet de mode qui portait les gens les uns vers les autres pour se rencontrer autour des chevaux ou des ânes, des animaux de travail, on va dire. Et voilà, donc...
Donc là, vous êtes un réseau à travailler ensemble, à vous voir régulièrement
On est déjà en réseau pour mille et une autres façons de faire. Et l'usage du cheval a produit un circuit de plus dans ce réseau. Voilà. Et par-delà ce réseau, bon, il y a ces rencontres auxquelles on participe. Moi, je tâche autant que faire se peut d'y être 2 à 4 jours par an. Et on rencontre des professionnels qui sont plus, on va dire, des prestataires de la technique du cheval appliquée à l'agriculture, mais qui ont aussi une forme de philosophie et qui ont aussi une forme de tolérance à d'autres pratiques plus marquées ou des pratiques qui n'ont pas les mêmes moyens à mettre en œuvre pour se lancer dans l'agriculture comme ça. Et ça a permis de recevoir des techniques, mais sans que ce soit forcément une espèce de dogme indépassable. Donc il y a des grands principes à sentir, et puis il y a aussi un travail sur soi à faire pour être en phase avec non plus une espèce de machinerie fumante et pétaradante, mais là c'est des êtres humains. Enfin, non, je me trompe même, mais voilà, c'est des êtres vivants, quoi. Et nous, c'est ce qu'on cherche partout, dans tout ce qu'on fait, c'est de rester sur du vivant. Donc les chevaux, les ânes, tout ça, ça nous intéresse, même si on n'a au départ pas les atouts en main pour le faire. Mais bon, au fil des ans, ce réseau, ben, c'est pas un réseau spécialement concerné par la traction animale, c'est plus large que ça. Et à l'intérieur de ces échanges-là, il y a des temps forts consacrés où on se reçoit les uns les autres avec nos atouts, nos limites, nos erreurs, quelquefois qu'on arrive justement à corriger parce qu'on travaille devant des copains qui nous font des remarques, on réessaye autrement. Voilà.
On va peut-être mettre le griffon de droite là. Hein ? Il faudrait l'amener sur la terre avec la chaîne, d'avoir une chaîne avec un ressort dans mon camion.
Elle, c'est la première fois qu'elle va travailler. Oui. Moi, je ne serais pas rassurée, c'est
clair. Cet animal a été abandonné, donc bon, certaines personnes se battent depuis plusieurs années pour essayer de réhabiliter la traction animale. Donc ces gens-là ont gardé un savoir ou se sont débrouillés pour l'acquérir auprès de personnes qui l'avaient même gardé. Et c'est vrai qu'il y a... Ces personnes-là sont des personnes ressources, il n'y en a pas beaucoup. Et donc il faut essayer d'aller se former auprès des bonnes personnes pour pouvoir transmettre par la suite ce savoir-là. Et c'est vrai que parfois il y a certains savoirs qui se sont perdus et on arrive à les retrouver par l'expérience.
Parce que ce qu'on a vu avec Teddy hier qui proposait de la bourrelerie, c'est qu'il y a, il y a beaucoup de savoirs à côté, au niveau du matériel. Enfin, c'est tout un ensemble qui s'est perdu aussi, voilà.
Il y a un savoir très régionalisé aussi. C'est quelque chose qui est flagrant quand on fait des revues de matériel avec les stagiaires aussi.
Chaque région avait sa culture, son type de sol. Donc les outils étaient adaptés à un terroir, à un type de sol et à une culture. C'est vrai que parfois, d'un canton à l'autre, les outils changent. Donc ça, c'est technique. Donc... S'il y a une variété, c'est parce que la technique est différente. Et il y a aussi un problème de culture. Parfois, la technique est la même, mais culturellement, d'une région à l'autre, on n'a pas toujours les mêmes outils ou les mêmes harnais. Simplement parce que ce n'était pas la même région. Donc ça fait aussi partie du savoir à transmettre.
Voilà. Quand ça part à droite, tu penches à gauche.
L'inverse de la mobilette.
Et quand ça part à gauche, tu penches à droite.
Ouais, je sais que
bien dit. Allez, Foulan, on y va. Allez, à droite. Oui. Marchez. Put. Doucement.
Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Heureux qui, comme Ulysse, a vu sans paysage. Et puis a retrouvé, après maintes traversées, le pays des vertes années. Par un petit matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, quelle est belle la liberté, la liberté. quand on est mieux ici qu'ailleurs, quand un ami fait le bonheur, qu'elle est belle la liberté, la liberté. Avec le soleil et le vent, avec la pluie et le beau temps, on vivait bien content, mon cheval, ma Provence et moi. Mon cheval, ma Provence et moi. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, heureux qui comme Ulysse a vu son paysage, et puis a retrouvé, après maintes traversées, le pays des vertes années. Par un joli matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, quelle est belle la liberté, quand ça n'est fini des malheurs, quand un ami sèche vos pleurs, quelle est belle la liberté, battu de soleil et de vent, perdu au milieu des étangs. On vivra bien content, mon cheval, ma Camargue et moi. Mon cheval, ma Camargue et moi.
Donc Arnaud, tu as suivi aussi le stage de traction animale ?
Oui, j'ai acheté une mule que j'ai ramenée dans les Cévennes en novembre dernier. Et puis depuis, ben, j'essaye de l'adresser, qu'on apprenne à vivre ensemble, parce que voilà, je voudrais faire des trucs avec. Pas forcément du maraîchage, c'est pas forcément un projet agricole, c'est plus un projet peut-être faire du débardage. Là, moi, je fais un peu d'élagage, et à partir de ça, je voudrais faire du débardage en traction animale. Voilà. Et puis aussi, plus généralement, un animal avec lequel je pourrais me déplacer. Moi, c'est l'idée... de me déplacer, d'arriver, l'objectif serait d'arriver à se déplacer autrement qu'en voiture, qu'en véhicule à moteur, et donc un animal qui puisse porter un peu les affaires que je promène là, sur lui, ou le matériel dont j'ai besoin pour travailler, ou voilà.
Donc c'est vraiment vivre avec l'animal aussi
Oui, c'est de toute façon, ça reste dans l'idée d'être du côté du vivant. Enfin, moi au départ, je suis un intellectuel, moi, donc au départ, c'est une approche théorique, et à force de réfléchir dans mon coin, je tire des constats et je me dis, ce que je vois, c'est une guerre contre le vivant, et une fois que j'ai l'impression d'avoir analysé la situation correctement, je me dis, j'ai envie de choisir mon camp, et moi, je choisis le camp du vivant contre le camp d'une logique... même pas une logique de mort, parce que la mort, elle fait partie de la vie, c'est une logique de néant ou de nihilisme, quoi. Et pour moi, l'ère industrielle, enfin l'ère de la machine et de la toute-puissance, voilà, c'est quelque chose qui est destructeur, pas seulement de l'environnement, mais qui est destructeur de la société humaine aussi, quelque chose qui fabrique des individus de travers, et puis quelque chose qui n'a pas d'avenir, parce qu'il y a des... il y a des limites concrètes qui commencent à se poser dans la vie tous les jours pour tout le monde maintenant, au développement infini de la technologie, quoi, sans limite. Voilà, effectivement, l'ère du pétrole, elle s'arrêtera le jour où il n'y a plus de pétrole, et je ne cours pas après des solutions de rechange tant qu'elles restent dans mes mordes d'idées. Donc moi, l'idée, c'est de vivre en partie, de partager ma vie avec des animaux, parce que c'est une façon très directe d'être du côté du vivant, et d'avoir des questions concrètes à résoudre tout de suite, comme un animal, un cheval ou une mule, un âne, et il broute de l'herbe, donc il lui faut de l'herbe. Donc si on vit dans un environnement où il n'y a plus d'herbe, parce qu'il n'y a que du béton ou que de l'environnement urbain artificialisé, il ne peut pas vivre, donc ça pose des questions, comment on fait, voilà. Pour le moment, en ce moment, je vis en appartement, je n'ai pas l'électricité chez moi, c'est à la fois une réponse à des conditions de vie précaires avec peu d'argent, mais c'est aussi en même temps un choix, quoi. C'est un peu quelque chose entre les deux, un choix délibéré de refuser certaines choses pour essayer d'aller en chercher d'autres, ou parce que je pense qu'il y a des choses à trouver dans des directions dans les directions de l'énergie humaine et naturelle. Avant de m'intéresser à la traction animale, j'avais commencé à vivre sans voiture à la campagne, et là je m'étais intéressé au vélo. Donc j'ai utilisé beaucoup le vélo, j'ai utilisé des vélos d'assistance électrique, là, voilà. Et puis un jour j'en ai expérimenté les limites, et puis j'ai eu envie d'aller plus loin, d'avancer, et donc d'aller jusqu'à l'utilisation de l'énergie animale. Voilà.
Et tu as choisi quel type d'animal justement ?
Eh ben, moi j'ai une mule qui est une mule de trait, c'est-à-dire c'est une mule lourde avec les parents, c'est une jument percheronne, et puis un âne c'est le baudet du Poitou, donc c'est une mule de trait, comme un cheval de trait, sauf que c'est une mule, mais c'est la même chose, c'est donc un animal qui est assez grand et costaud, il fait 1m50 au garrot, peut-être elle fait vers 600 kg. Donc beaucoup de force, et elle pourrait, un animal qui peut tirer du poids, pas seulement tirer des engins de travail agricole, mais tirer une charrette, une petite roulotte ou un truc là sur les chemins ou sur les routes aussi, puisque l'objectif ça serait de l'atteler un jour. Voilà. Pour l'instant c'est le tout début, elle est jeune et moi je suis jeune muletier, donc on apprend ensemble, et pour l'instant je la bats, là, je mets le bas et je mets les affaires sur le bas, et elle porte un peu déjà ses affaires à elle, les miennes, voilà, et on se déplace comme ça.
Et comment trouves-tu les ressources pour l'apprentissage ? Comment tu as commencé à travailler avec, et quels objectifs tu te fixes ?
Les ressources, j'ai un mode de vie assez précaire. Là, je suis allocataire du RSA, donc j'ai des ressources financières qui sont très limitées. Du coup, par rapport à un mode de vie salarié, j'ai une certaine forme de liberté par rapport au temps, c'est-à-dire que je peux organiser mon temps. Donc les ressources, si j'ai peu de ressources financières, par contre, à partir du fait que j'ai du temps, et à partir du fait que je vais chercher des endroits où je vais pouvoir trouver des ressources, on va dire des ressources humaines, sociales, c'est-à-dire, voilà, par ici, ici dans le Gard, il y a la Théargue, voilà, qui fait un travail autour de ça, donc je suis content d'y participer, parce que je rencontre des gens qui vont un peu dans la même direction que moi, même si les projets sont pas complètement identiques, finalement la logique est un peu la même, et on peut arriver à avancer par le fait de pouvoir s'échanger des choses, et d'être dans des environnements, on va dire, qui sont riches socialement, qui sont riches d'énergie animale et d'énergie humaine aussi, parce que bon, utiliser la traction animale, c'est pas... Ça demande un certain investissement. Je vois ça comme des projets qui sont plus des projets dans l'urgence. On peut pas dire la semaine prochaine je monte mon entreprise et hop et je vais commencer à gagner de l'argent. C'est pas ça, puisque on travaille avec des animaux. Donc il faut fabriquer des conditions d'existence qui fassent que tout le monde soit bien là où il vit, et qui fassent qu'on ait envie de travailler ensemble. L'animal, s'il n'est pas bien dans sa tête, s'il est tout seul dans un endroit pourri qui ne lui plaît pas, il ne va pas du tout avoir envie de travailler. Voilà. Et puis pour les questions humaines, c'est pareil. On s'échange dans les sessions de formation de l'ADR, mais aussi dans les rencontres plus informelles qu'il y a entre les gens qui travaillent sur la traction animale. Et ben, on s'échange de l'énergie aussi entre individus, finalement. Je vois que c'est un peu ça aussi. Voilà. Et puis de l'énergie, des savoirs à redécouvrir, parce qu'il y a des choses qui avaient commencé à s'oublier à partir du moment où il y a une cinquantaine d'années, il y a eu un basculement de l'utilisation des animaux à l'utilisation des moteurs à essence et des véhicules, pour des voitures pour se déplacer, des tracteurs pour le travail agricole, etc.
Là, tu es venu pour ces deux jours à pied avec ta mule à un âne.
Ouais.
Donc pour la travailler, toi, avec les formateurs, la travailler en groupe. Est-ce que tu peux nous raconter cette démarche ?
La mule, pour le moment, elle se trouve bien avec le petit âne avec qui elle est. Et donc, ils se déplacent tous les deux. Et si je voulais déplacer la mule tout seul, ça ne marcherait pas, parce qu'elle dirait « Où est mon petit âne ?» Donc, par exemple, c'est une différence avec le tracteur. Le tracteur, il ne se pose pas de questions existentielles. Si le moteur est en marche, on appuie sur un bouton, on a mis de l'essence dans le réservoir, et hop, ça marche. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, moi, un des objectifs prochains, ça serait de pouvoir me déplacer avec la mule toute seule. Je pense pas que ça va se résoudre cette fois là, cette journée de formation, mais c'est quelque chose qui est dans les tuyaux et qui avancera par le fait que la mule elle vienne rencontrer d'autres animaux par exemple, et que son champ de vie s'ouvre voilà à d'autres êtres vivants, et qu'elle se rende compte que des ânes, des chevaux et des autres êtres humains, il y en a plein à rencontrer aussi. Et les objectifs, ça serait d'avancer un peu dans le... Je sais pas si le mot dressage est le bon mot, parce que c'est pas seulement une histoire de dressage. Pour moi, c'est quelque chose qui navigue entre le dressage et l'apprentissage d'une vie ensemble, parce que travailler un animal, ça veut dire vivre avec lui.
L'éducation,
donc apprendre à vivre avec lui, être à son écoute et comprendre pourquoi ça bloque quand ça bloque. Le tracteur, quand il marche plus, on ouvre le capot, on regarde dedans, on prend la notice. Et pour l'animal, pour la mule, il n'y a pas de notice, donc il faut l'écouter, il faut arriver à comprendre son langage, et puis un jour arriver à lui parler dans son langage à elle pour se faire comprendre, et puis arriver à interpréter les signaux qui vont expliquer pourquoi aujourd'hui il n'a pas envie d'avancer dans cette direction-là. Très souvent, on se rend compte que c'est des choses très logiques et qu'il y a toujours des raisons, et que souvent, si l'animal il veut pas faire ce qu'on lui demande, c'est pas de sa faute à lui, c'est pas parce qu'il est bête, c'est parce qu'on a fait les choses dans le mauvais sens, qu'on les a pas fait, on lui a pas... Voilà, c'est souvent des... Je dirais qu'il y a souvent des problèmes humains qui font que qui empêchent l'animal d'avancer, quoi. Voilà. Donc c'est bien autre chose que de se dire, on va lui donner 3 coups de trique et puis elle va partir et c'est bon. Voilà.
Et ton projet de faire du débardage alors avec la mule, c'est quoi exactement?
J'ai commencé à faire de l'élagage, c'est-à-dire je fais des élagages sur corde, là, je monte dans les arbres pour les tailler ou pour les couper un peu. Et le débardage, ça serait de la suite de l'activité. Moi, je voudrais travailler plutôt en forêt ou dans les châtaigneraies et dans les Cévennes, c'est-à-dire de pouvoir déplacer le bois qui a été coupé ou taillé de tel endroit à tel endroit avec l'animal le plus possible, quoi.
Parce que ce qui se fait actuellement, c'est avec des tracteurs ou...
C'est ce qui se fait beaucoup. C'est le débardage en traction animale, c'est une activité qui a un certain regain aujourd'hui, comme de même que l'utilisation de la traction animale pour le maraîchage. Mais bon, ça reste des choses très localisées, puisque on est au 21e siècle, en 2012, et que majoritairement on est dans un environnement où ce sont les engins à moteur qui dominent pour des raisons de logique économique, de rentabilité, d'efficacité, enfin des raisons qu'on pourrait que moi j'aurais envie de critiquer. Et donc l'idée de vouloir travailler avec un animal, c'est l'idée d'essayer de faire des critiques en acte plutôt que des critiques théoriques que j'ai déjà fait avant, voilà. Et d'essayer de développer ça, c'est un objectif dans le sens, c'est d'aller vers d'utiliser le plus possible la traction animale comme énergie utilisable, parce que je pense que c'est une énergie qui respecte plus les règles de fonctionnement du vivant que les énergies fossiles telles que le pétrole, même l'électricité, qui est une électricité nucléaire en France aujourd'hui, voilà.
On revient et on arrête.
On revient avec l'outil au cul.
Donc là, on dételle. Alors pour dételer, c'est vite fait, il n'y a qu'à décrocher les deux chaînes et reculer les bras.
Comment on peut continuer dans l'optique de rendez-vous réguliers sur les journées mensuelles du 7 qui sont ingérées par vous, et puis les rendez-vous qu'on peut faire à la Dergue, toujours avec Bénédicte et Jean? Est-ce qu'on peut creuser aussi au niveau bourrellerie avec Teddy ou au niveau attelage? Il y a des demandes là-dessus, il y a des demandes sur le débardage aussi, enfin voilà. Donc il y a plein de pistes aussi à creuser, on ne peut pas tout faire dans tous les sens, et puis quand on veut faire des choses, il faut qu'il y ait des gens qui mettent la main à la pâte.
Écoutez cette histoire que l'on m'a racontée du
fond de ma mémoire, je vais vous la chanter. Elle se passe en Provence, au milieu des moutons, dans le sud de la France, au pays des cent ans.
Dans le sud de la France, au pays des cent ans.
Quand il vint au domaine, il y avait un beau troupeau. Les étables étaient pleines de brebis et d'agneaux, marchant toujours en tête aux premières lueurs. Pour tirer sa charrette, il mettait tout son cœur.
Pour tirer sa charrette, il mettait tout son cœur.
Au temps des transhumances, il s'en allait heureux, montant la Durance, honnête et courageux. Mais un jour de Marseille, des messieurs sont venus. La ferme était bien vieille, alors on l'a vendue.
La ferme était bien vieille, alors on l'a vendue.
Il resta au village, tout le monde l'aimait bien, voyant malgré son âge et malgré son chagrin. Image d'évangile, vivant d'humilité, il se rendait utile auprès du cantonnier.
Il se rendait utile auprès du cantonnier.
Cette vie honorable, un soir s'est terminée. Dans le fond d'une étable, tout seul il s'est couché. Pauvre bête de somme, il a fermé les yeux. Abandonné les hommes, il est mort sans adieu.
Abandonné les hommes, il est mort sans adieu.
La 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 la, la 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 la. Cette chanson sans gloire vous racontait la vie, vous racontait l'histoire d'un petit âme.
Ça donne. Ça m'a dit